Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. C'est la première fois qu'il témoigne dans un média. Richard Volange a été espion dans les services secrets français pendant 44 ans. Il a participé à l'arrestation du commanditaire présumé des attentats de Charlie Hebdo. Il est mon invité sur RTL. Des militants intégristes catholiques l'ont empêché de faire un concert dans son église. Son adjointe a été frappée, lui a été insulté. Le maire de Carnac témoigne dans Focus Dimanche. Joël Goron était la star de l'émission de télévision Froufrou dans les années 90. Elle publie La mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. Elle vous donnera des conseils pour trouver sa place de grand-parent sans culpabiliser. Edmond Réveil a 98 ans. Il a révélé cette semaine avoir participé à l'exécution de soldats allemands en 1944. Est-ce qu'il existe d'autres secrets sur la résistance? Je pose la question à un historien dans quelques minutes. La semaine dernière, des footballeurs de Ligue 1 ont refusé de porter un maillot arc-en-ciel en faveur de la lutte contre l'homophobie. Yoann Lemaire, le président de l'association Foot Ensemble, est en colère. Il est mon invité sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus. Dimanche.
44 ans de sa vie à enquêter et espionner pour un seul compte, celui de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, appelée la DGSE, les services secrets français. Il commence sa carrière en tant qu'archiviste, puis il deviendra agent de terrain, une vie atypique qui l'a emmené de Paris à Djibouti en Afrique. Aujourd'hui, il raconte ses mémoires et ses erreurs dans un monde secret. Espion 44 ans à la DGSE, c'est un livre aux éditions Talent. Richard Volange est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Richard.
Bonjour.
Richard Volange, c'est un nom d'usage. Vous êtes également aujourd'hui en studio avec nous, avec des lunettes de soleil pour qu'on ne puisse pas vous reconnaître. Ça pourrait être dangereux de vous reconnaître, Richard Volange?
Ça pourrait l'être, essentiellement sur la partie de ma carrière concernant Peter Sherriff, puisque l'affaire est toujours pendante, il est renvoyé aux assises, et donc bon, on ne sait jamais ce qui pourrait se produire si quelqu'un avait envie de chercher qui avait participé à sa traque et à sa capture.
Peter Sherriff, c'est le commanditaire présumé des attentats de Charlie Hebdo de 2015. Comment s'est déroulée sa traque?
Donc la traque, elle commence au Yémen, essentiellement à travers les communications entre sa belle-famille, donc ouais. L'épouse, qui est décédée d'ailleurs, ouais. Je le rappelle, donc son épouse, Soulef Hadjimi, et donc sa famille en France qui lui envoyait de l'argent. Donc on arrivait à, comme ça à pouvoir le suivre à travers les lieux où il se rendait pour récupérer cet argent. La CIA, de son côté, avait réussi à obtenir ses communications téléphoniques. Mais jusqu'au moment où il est arrivé à Djibouti. Donc il y a eu plusieurs événements qui ont fait que, au niveau de ACPA, il a perdu son rôle. Hein, de...
ACPA est une organisation terroriste.
Voilà, c'est Al-Qaïda pour la péninsule arabique, voilà, donc qui était un mouvement puissant, nettement plus important que Daesh, qui était encore un mouvement résiduel dans la capitale du sud, Aden. Donc ACPA avait plusieurs implantations, avait donc un émir qui avait été drôné en 2015, et c'est à partir de ce moment-là que Peter Sherriff a perdu de...
Qu'est-ce que ça veut dire drôné?
Droné, c'est un drone qui neutralise la personne ciblée. Donc les Américains avaient réussi à localiser précisément l'émir d'ACPA et donc l'avaient abattu avec un drone neutralisé. Peter Sherriff, lui, était le chef des combattants étrangers.
Voilà. Quand vous l'arrêtez, alors, vous ressentez quoi?
Pour nous, c'était vraiment un gros coup. Alors, de toute manière, les Américains avaient une participation technique très active, puisqu'ils ont des moyens totalement démesurés. Mais, si vous voulez, moi j'étais pas, on peut pas appeler ça en back-office, mais avec une participation avec eux, de toute manière, où on essayait d'échanger un maximum pour pouvoir non seulement le localiser, mais voir ce qu'il faisait à Djibouti avant, effectivement, qu'il puisse se rendre en Algérie, puisque c'est ce qu'ils avaient prévu avec l'épouse. Mais en tout état de cause, Djibouti était simplement un point de passage, une étape. C'est pour ça qu'il nous fallait faire relativement
une opération rapide.
Vite.
8 ans après, la menace islamiste est toujours présente en France.
Bien sûr.
Richard Volange.
Bien sûr. Bien sûr. Elle est toujours prégnante. Il y a toujours des cellules qui sont suivies par la DGSI et qui sont démantelées avant effectivement de d'être passées à l'acte, mais ça on n'en parle pas ou très peu.
Jusqu'à il y a encore quelques années, les espions étaient plutôt mal vus, jusqu'à un changement médiatique, la télévision, des séries, et plus particulièrement une série, écoutez ça. Vous reconnaissez ce générique, Richard Volange ?
Oui, oui.
Vous avez le sourire en écoutant ce générique ?
Oui, parce que c'est une série qui, effectivement, a tout déclenché.
C'est le Bureau des légendes.
Voilà.
Ça a tout déclenché, le changement de regard, le changement de l'image de la DGSE qui a participé, qui a donné des conseils à Éric Rochant, le scénariste du Bureau des légendes. Ça se passe vraiment comme ça, dans la vie, pour un espion, le Bureau des légendes ?
Alors moi, comme je l'avais dit sur le fond, effectivement, c'est un scénario qui est très bien conçu, un scénario qui relate des affaires qui pourraient très bien se produire. Après, effectivement, sur la forme, bon, il y a beaucoup de choses de romancées, il y a beaucoup de choses de exagérées. Après, effectivement, on peut pas non plus faire une, je comprends Éric Rochant, faire quelque chose qui ne donne pas un peu de piquant. Mais dans la réalité, il y en a beaucoup moins que ça.
Il y a quelque chose de passionnant dans votre livre, je le rappelle, Espion 44 ans à la DGSE, chez Talent Édition, c'est le recrutement des sources. Ouais. Comment ça se passait, le recrutement d'une source ? Quelle source a été la plus connue que vous ayez recrutée, sans nous donner le nom, bien évidemment ? Et surtout, comment vous avez travaillé pour les utiliser, ces informations des sources ?
Alors, le recrutement des sources, alors c'est vrai que c'est un point fort pour la DGSE, la recherche humaine. Contrairement à d'autres pays, effectivement, qui ont davantage misé sur le technique et qui ont peut-être moins formé, moins utilisé la recherche humaine que nous. Voilà. Raison pour laquelle les Américains, très souvent, pour des opérations conjointes, des coopérations opérationnelles, nous utilisent pour traiter
la France et Israël, la DGSE, le Mossad, les services secrets israéliens ont beaucoup misé sur l'aspect humain. La CIA, les Américains, le MI6, les services britanniques, eux, plutôt sur la technologie.
C'est exact. Quoique le Mossad est assez fort. Hein,
sur les deux aussi.
Voilà, ça c'est vrai.
Mais comment on utilise ces sources ?
Alors, déjà, il faut pouvoir les recruter. Ouais. Il y a deux choses. Quand vous arrivez en poste, ou bien que vous êtes à Paris, officier traitant, vous avez déjà un cheptel de sources que votre prédécesseur vous a transmis. Après, vous avez des orientations et donc du ciblage, donc de personnes qui vous intéressent et sur lesquelles vous allez vous porter au contact pour échanger et ensuite, avec le temps, arriver à un recrutement. Voilà. Donc ces personnes, vous les utilisez en fonction de leur domaine de compétences, hein, de spécialité. Donc c'est des gens qui peuvent très bien travailler dans un mouvement d'opposition, proche du pouvoir, dans une société privée importante, par exemple sur les matières premières, etc. Donc là, vous essayez d'obtenir des renseignements un peu inédits, confidentiels, qui, bien évidemment, ne vont pas se retrouver dans la presse deux jours plus tard, ou avoir fait l'objet d'articles spécialisés. Donc quelque chose vraiment d'inédit. Et ces sources, faut aussi les utiliser pour essayer d'obtenir des documents. Si une personne est bien placée et qu'elle a accès effectivement à des documents confidentiels, là c'est véritablement excellent.
Une question peut-être sur un homme que vous avez peut-être croisé, Richard Volange, en Afrique, c'est le journaliste et l'animateur de télévision Philippe de Dieuleveux, présentateur de la carte au trésor dans les années 80. Cette semaine, il y a eu un documentaire diffusé sur France Télévisions qui revenait sur sa mort, sur les zones d'ombre de sa mort, et notamment le fait qu'il ait été un officier, ou en tout cas un espion de la DGSE. Vous en savez plus, vous, Richard Volange ?
Alors écoutez, moi à l'époque, j'étais aux archives. Je savais, j'avais vu le dossier, il était capitaine de réserve, donc il travaillait effectivement pour nous en tant que réserviste, et donc son rôle c'était de nous donner des éléments d'ambiance dans les pays dans lesquels il se rendait, de collecter éventuellement des informations, mais aussi à travers les contacts qu'il avait pu nouer, ne serait-ce qu'en tant que journaliste.
Donc il faisait partie de la DGSE ?
Alors non, En fait, il avait un rôle plutôt d'honorable correspondant.
D'accord.
Voilà, mais son vrai métier, ce n'était pas la DGSE. Hein, il était simplement associé à nous à travers justement ce volontariat patriotique pour nous donner des accès ou nous donner quelques informations.
Et est-ce qu'au sein des services, on en savait plus sur les conditions de sa mort ? Il est mort au Zaïre et nous n'avons jamais retrouvé le corps.
Alors, c'est ça, effectivement. Faut se reporter à l'époque au niveau de ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Vous savez, entre l'armée, comme beaucoup d'armées africaines, et en réalité la garde républicaine, qui est bien équipée, qui a accès à beaucoup de choses de renseignement, l'armée en elle-même, elle est assez disloquée. Donc, on peut imaginer qu'il n'y ait pas forcément eu une volonté délibérée de se débarrasser du corps, de l'avoir tué, ou je ne sais quoi, mais simplement, peut-être, un corps qu'eux ont préféré faire disparaître, parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt pour eux de se débarrasser, ou du moins d'assassiner quelqu'un comme lui.
Merci beaucoup Richard Volange d'avoir accepté mon invitation sur RTL aujourd'hui dans Focus Dimanche. Votre livre « Espion 44 ans à la DGSE », quand j'ai reçu le livre, je me suis plongé dans le livre et j'ai adoré. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de recul, beaucoup de prise de distance. Et surtout, vous évoquez très bien les difficultés. Voilà. Ce n'est pas que le bureau des légendes, la vie d'un espion, c'est aussi des difficultés au quotidien et surtout des difficultés familiales pour avoir une vie de famille. Et donc c'est très intéressant. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui sur RTL.
Merci à vous.
C'est de passer un excellent dimanche. À bientôt.
Merci.
Un nouveau concert annulé par des mouvements d'extrême droite à Carnac. Le maire Olivier Lepic a dû porter plainte. Il revient sur un samedi soir mouvementé avec des coups et des insultes au micro de Focus Dimanche sur RTL. C'est dans un instant.
Focus Dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Après l'annulation du concert de Bilal Hassani dans une église à Metz, le maire de Carnac a lui aussi dû annuler celui de l'organiste Kali Malone, une artiste américaine. Il devait se tenir samedi dernier dans une église. En cause, plusieurs dizaines de catholiques intégristes proches du mouvement Civitas ont empêché la tenue du concert. Le maire de Carnac réagit. Bonjour Olivier Lepic.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation dans Focus Dimanche aujourd'hui. Ce concert de Kali Malone, tout d'abord on va écouter un titre de Kali Malone, cet organiste célèbre, réputé partout dans le monde. Elle a été empêchée de participer à ce concert dans votre église à Carnac pour une chanson, c'est ça, pour un titre d'une chanson, Olivier Lepic.
C'est même pire que ça, c'est une chanson qu'elle ne jouait pas d'ailleurs ce soir-là, donc encore une fois, cette action était dénuée de toute rationalité, puisque la chanson en question n'était pas au programme du concert de samedi dernier.
Cette chanson, ce titre, c'est « Sacer profanare », en clair « sacré profané ». C'est juste pour ces deux mots que ces membres de Civitas, ces proches du mouvement Civitas, ont tout fait pour empêcher ce concert dans votre église ?
Exactement. Je crois qu'il y a eu une espèce de montée en irrationalité, c'est-à-dire qu'à partir d'un titre de l'œuvre de Kali Malone, eh bien cette communauté s'est, passez-moi l'expression, mais monté le bourrichon et a décidé que il n'était pas légitime pour une telle artiste de jouer dans une église, alors que ce concert avait été accepté par le curé de la paroisse, par l'évêque, que le contenu avait bien évidemment été analysé par l'évêché. Et donc, oui, il y a eu une bouffée d'irrationalité et d'intolérance, d'intégrisme absolument déplorable.
Enfin, vous avez des mots quand même qui nuancent un petit peu ce qui s'est passé, monsieur le maire, parce que ils n'ont pas hésité à faire usage de la violence. Votre adjointe en a fait les frais notamment.
Tout à fait. Ça rend la démarche encore plus inacceptable, puisque une de mes adjointes, effectivement, a été frappée sous les cris de arrière Satan. Donc on avait vraiment,
attendez,
on avait vraiment face à nous des gens totalement irrationnels, violents, et qui étaient prêts à aller jusqu'aux extrêmes pour empêcher la tenue de ce concert. J'avais 200 spectateurs à l'extérieur qui ne pouvaient pas accéder à l'église. Le ton commençait à monter, des dehors fachos commençaient commençait à fuser. Moi, j'avais un policier municipal et deux gendarmes avec moi. Il y avait 300 personnes. À un moment, quand vous êtes maire, et voilà, vous avez évidemment, vous êtes là pour prendre des décisions. La moins mauvaise, c'était malheureusement d'annuler ce concert. Même si je l'ai fait, la mort dans l'âme, et je comprends très bien qu'on puisse me critiquer. Hein, j'en accepte totalement l'augure.
En tout cas, c'est pas le but d'aujourd'hui.
Ah, je sais, non, mais j'ai entendu, pas vous, mais j'ai entendu des gens qui me disaient c'est leur donner raison. Certes, mais quand vous êtes tout seul un samedi à 23h et que vous avez face à vous des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la violence et qu'il y a dans le public des jeunes gens, et puis il y a une église du 16e siècle qui est magnifique, qui est classée monument historique, dont je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'elle pourrait être dégradée par l'action de ces imbéciles.
Le profil. Monsieur le maire, monsieur Olivier Lepic, le profil de ces 40 personnes proches du mouvement Civitas, c'est quoi ?
Alors d'abord, c'est absolument pas des habitants de Carnac, c'est ni des Carnacois ni des Carnacoises. Oui. On n'en connaissait aucun. Ce sont des jeunes gens, je dirais entre 25 et 35 ans, la nuque bien dégagée, les cheveux assez courts, avec une tenue vestimentaire qui est assez caractéristique de ces milieux catholiques intégristes d'extrême droite, et avec qui il était impossible de dialoguer. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je suis arrivé, j'ai tenté de voir et discuter avec ce qui semblait être leur chef. Mais je me suis opposé à un mutisme complet. Ils se contentaient simplement de réciter des prières et de chanter les louanges de Dieu sous le porche de l'église. Mais à aucun moment, je n'ai pu entamer une discussion avec eux. J'ai porté plainte, évidemment, le lendemain, ainsi que le ministère de la Culture via le Centre des Monuments Nationaux. Mon adjointe a porté plainte pour violence. Et je pense qu'il y aura j'espère qu'il y aura des conséquences judiciaires et pénales. Et je m'en inquiète. Qui errait auprès du procureur, parce que il faut absolument qu'il y ait des suites à ce scandale.
Vous le connaissez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, Olivier Lepic. Il a démissionné après avoir vu sa maison et sa voiture incendiées en lien avec l'accueil d'un centre d'accueil pour réfugiés dans la commune, un centre d'accueil qui n'avait connu aucune défaillance, aucune conséquence pour la ville. Tout se passait bien entre les habitants de la ville de Saint-Brévin-les-Pins et de ce centre d'accueil pour migrants, pour réfugiés. Vous la connaissez, cette violence ?
Exactement, mais ce qu'on voit, et je pense que c'est le quotidien de tous les maires, ce qu'on voit, c'est que des petites minorités actives, intolérantes, parfois violentes, veulent s'arroger le droit de décider ce qui est bon, acceptable ou inacceptable pour la majorité. On le constate à l'extrême droite, on le constate également à l'extrême gauche. Parallèlement à ça, nous maires, nous constatons une montée de l'agressivité, de la violence dans le corps social de la part de nos concitoyens qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus agressifs. Et ce qui se passe à Saint-Brévin, c'est la partie émergée de l'iceberg de ce que vivent de nombreux élus sur le territoire national. Il y a de plus en plus d'agressivité, mais quand vous avez une assemblée nationale où des députés se haranguent, s'insultent en permanence, vous ne pouvez pas penser que dans le corps social français, ce genre de... Il y a une espèce de légitimation de la violence qui fait que ça prend aussi des proportions qu'on ne connaissait pas il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années.
Monsieur le maire, Yannick Morez a dit avoir été victime d'intimidation de la part de l'extrême droite. Marion Maréchal-Le Pen, la vice-présidente de Reconquête, a déclaré ridicule les manifestations d'ultra-droite qu'on a vues ces derniers jours à Paris, à Annecy. Elle a dit « Je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là ». Si même la vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal Le Pen, dénonce ces mouvements d'extrême droite, c'est qu'on est arrivé à quelque chose d'extrêmement dur. Même Reconquête est capable de dire aujourd'hui « Ben là, c'est pas bien, faut arrêter ».
En la circonstance, quand on ouvre une boîte de Pandore et qu'on est dépassé par ses propres troupes, alors qu'on a soi-même suscité parfois la haine et la violence, je ne peux me féliciter qu'elle condamne ces agissements. Simplement, il va falloir qu'elle balaye un petit peu plus devant sa porte, parce que encore une fois, c'est bien de condamner et c'est républicain et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Simplement, il faudrait qu'elle ait une petite réflexion, une introspection sur les idées idées et sur les mouvements qui se sont agrégés autour de l'extrême droite. Et c'est sa clientèle électorale. Donc il suffit pas simplement de dénoncer, ouais. Il faut aussi au quotidien et bien essayer d'apaiser, d'expliquer, de faire preuve de pédagogie et surtout de ne pas mettre en avant la violence ou de trop cliver la société, parce que quand on clive, eh bien on peut s'exposer justement à ces retours de bâton extrêmement violents.
1000 maires qui ont d'ores et déjà démissionné ces dernières semaines, ces derniers mois de leurs fonctions dans leur mandat. Est-ce que vous craignez pour l'élection 2026 qui va avoir lieu, notamment sur les municipales, est-ce que vous craignez des maires qui reprennent pas?
C'est une évidence, hein. On assiste depuis quelques mois en France à une épidémie de démissions d'élus, pour des raisons qui ne tiennent pas forcément au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il y a des raisons institutionnelles, hein. Je pense les évolutions de la gouvernance et de l'organisation administrative française fait qu'on éloigne de plus en plus des maires les décisions du quotidien. Ouais. Or, la beauté de ce mandat, c'est justement de résoudre les problèmes des gens au quotidien. Vous venez me voir le vendredi, le lundi, je résous votre problème. Si vous enlevez cette capacité au maire par la complexité administrative, par le déport des décisions dans les intercommunalités, si en plus vous avez l'agressivité de vos concitoyens, la faible reconnaissance des indemnités faméliques compte tenu des responsabilités, du temps de travail, évidemment, c'est très dur de créer des vocations. Ouais. Donc les gens démissionnent, les élus démissionnent, parce qu'ils se disent « mais tout ça pour ça ?» Enfin, franchement, le maire de Saint-Brévin, sa maison en feu avec sa famille à l'intérieur, et pour tout ça, pour une indemnité de quelques milliers d'euros, même pas un millier d'euros, avec une responsabilité pénale, euros. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, vous allez devant la justice, vous êtes condamné. Mais je pense qu'en 2026, il va y avoir un grand nombre de communes, comme c'était déjà le cas la dernière fois, où il n'y aura pas de liste pour se présenter au municipal. Mmh. C'est une évidence.
Un grand merci à vous, Olivier Lepic, maire de Carnac, d'avoir accepté mon invitation. Continuez de vous battre, surtout pour vos concitoyens et pour les habitants de Carnac. Hein.
On va continuer, vous inquiétez pas, bonne journée, au revoir.
Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur RTL, à bientôt. Les grands-mères se retiennent de dire ce qu'elles pensent avec leurs petits-enfants et avec leurs enfants. Joël Goron le dit à leur place dans un livre génial, un livre jouissif, et c'est dans Focus Dimanche sur RTL dans quelques secondes.
Focus Dimanche sur RTL.
On les adore et parfois on ne les aime pas, c'est la vie et c'est malheureux. Les grands-mères se retiennent pourtant de dire ce qu'elles pensent, mais Joël Goron le dit à leur place dans un livre aux éditions de Noël, Mamie, qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. C'est un livre très drôle. Franchement, c'est un livre qui se lit vraiment comme une petite série humoristique. Il y a plein de choses, plein de conseils. Et il se trouve que la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas est mon invité aujourd'hui dans Focus Dimanche. Bonjour Joël Goron.
Bonjour.
Joël Goron, ça vous dit quelque chose ce générique ?
Bien sûr. Cette vieille émission.
On a des... Ça nous fait plaisir d'écouter ce générique parce que vous étiez une froufrouteuse.
Ah, j'étais la vieille froufrouteuse déjà à l'époque. J'étais la plus âgée de ces cinq filles qui étaient autour d'une table pour la première fois à la télévision. Les filles avaient la parole et on disait ce qu'on pensait. Ouais. Ce qui était assez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des auditrices, des spectatrices de l'époque qui se souviennent de ça, qui disent mais où est-ce qu'on peut entendre ça aujourd'hui ?
Oui, parce que vous n'aviez pas la langue dans la poche, hein.
Oui, et surtout, on avait trouvé un moyen de dire des choses très justes, je pense, mais en rigolant.
Ouais.
Voilà, ça, c'était le secret, ça.
Cette émission, elle a marqué les Français froufrous. Hein.
Oui,
c'est par sa liberté, par le côté désobligeant, j'ai presque envie de dire.
Oui, un peu insolent.
Ouais.
C'était insolent parce qu'on n'entendait pas ce discours des femmes. C'est-à-dire sur la vie quotidienne, d'oser plaisanter, aussi bien sur les enfants, sur tout ce qui est de la vie quotidienne.
Le sexe, notamment, on
le
s'en souvient.
Le sexe, mais bien sûr, on parlait de sexe. Et qu'est-ce qu'on rigolait, je vais vous dire, entre nous.
Vous étiez journaliste, toujours, chroniqueuse, animatrice de radio, écrivaine, ça fait 30 ans que vous divertissez les Français, un peu plus de 30 ans, et aujourd'hui vous publiez ce livre « La mamie qui dit tout », ce que les grands-mères pensent tout bas aux éditions de Noël. Pourquoi avoir écrit ce livre, Joël Goron ?
Je vais vous dire, c'est très simple, c'est que moi je suis une grand-mère, mais j'ai 80 ans, et je pense que je suis une grand-mère à la vieille manière, si on peut dire, c'est-à-dire disponible, même si je travaillais, enfin c'est autre chose. La société a changé aujourd'hui, dans énormément de choses. Famille recomposée, beaucoup de divorces, beaucoup de familles monoparentales. Des filles, c'est-à-dire les jeunes mamans, elles ont 30 ans maintenant aujourd'hui au premier enfant. C'est-à-dire que quand elles ont un premier enfant, normalement, leur propre mère leur donnait des conseils. Aujourd'hui, elles n'en veulent pas. Elles ne veulent pas de ces conseils-là. Elles ont Internet, elles ont des copines sur Internet. Et la grand-mère, on la met un peu au placard parce qu'elle est, elle est plus dans le coup, la grand-mère. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouvelles choses, même en pédagogie, en façon... Est-ce qu'on couche l'enfant sur le côté, sur le ventre, sur le dos? Enfin, tous ces trucs-là...
Ça vous agace un petit peu?
Mais bien sûr, enfin, soyons honnêtes. Oui, ça m'énerve.
On parle avec le cœur, là, dans Focus Dimanche, on parle avec le cœur.
Oui, bien sûr. Je trouve ça surtout rigolo. Ce que je trouve rigolo, c'est toutes ces jeunes grand-mères, puisque les grand-mères, la moyenne d'âge en France, le premier enfant, c'est 55 ans. Donc moi, j'ai des copines, j'ai plein de copines qui ont 55, 60 ans, et qui sont tout d'un coup grand-mères. Et ce qu'elles me racontent, quand moi je leur dis, oh dis donc, tu trouves ça normal, toi, qu'on te renvoie comme ça au placard et tout? Et elle me dit, oui, non mais ça va, je suis très contente d'être grand-mère et tout. Oh là là, le premier enfant. Oh vivement que je suis grand-mère. Et puis quand vous parlez pour de vrai, je dis, attends, me raconte pas
les salades,
des salades, dis-moi la vérité et tout. T'en as pas marre qu'on te le donne à garder sans te prévenir, qu'on te dise au dernier
moment. Alors ça, je vais les donner ces exemples.
Oui.
Maman, est-ce que tu peux garder mon fils ou ma fille demain? Non, désolé chérie, je ne peux pas prendre tes enfants demain, j'ai une vie, moi aussi.
Voilà.
Xintia comme prénom, t'en penses quoi maman? Mais c'est une fille, un garçon ou une voiture? Écrire sur les murs, c'est normal, c'est l'éducation positive maman. Ok, mais pas chez moi.
Voilà, ça, c'est tout ça.
Ça, c'est des bons exemples, ça.
Voilà, c'est parfait. Parce que c'est vraiment, tout d'un coup, elles osent dire, les grand-mères, à leurs copines, non, franchement, là, elles me gonflent. Ma fille me gonfle.
Ça vous agace quand des petits-enfants ont, par exemple, envie d'écrire sur les murs et qu'on entend, c'est l'éducation positive, c'est comme ça en 2023.
Oui, l'éducation positive, je trouve ça absolument navrant. C'est-à-dire que les parents se les gavent eux-mêmes, mais quand ils viennent chez les grands-parents ou quand on les sort au restaurant et qu'ils savent pas se tenir, qu'ils courent autour des tables, que dans le train, on n'entend qu'eux, sans que la mère dise, est-ce que tu peux parler plus bas, s'il te plaît. Ça, on ne l'aura pas appris,
non, c'est
parce qu'il
ne
faut
créative.
Pas vexer les enfants. Oui. Et je trouve ça, autant il y a des trucs qui sont bien, ne pas filer une claque à ses mômes, je trouve ça très très bien.
Affaissé.
Je trouve qu'il y a quand même des choses bien. Mais se laisser aller et ce n'importe quoi, parce que c'est une mode, en fait. Ça va changer. Dans 20 ans, on va revenir là-dessus. C'est pas possible que ça continue comme ça.
J'adore quand vous présentez les profils des gendres. Ça,
ah,
c'est
oui,
génial.
Il y a les gendres.
Alors, il y a le gendre mou. C'est quoi le gendre mou?
Bon, le gendre mou, il sert à rien. C'est clair. C'est-à-dire que lui, il prend pas position, il fait rien, il est là, il suit. Je le supporte pas, celui-là.
Le gendre petit coq.
Ah, c'est l'envers, celui-là. Ouais. Celui-là, il a des théories. Et c'est le chef de famille à l'ancienne. Je peux pas l'encadrer non plus.
En plus,
on peut rien dire. Nous, la grand-mère, on peut rien dire.
Le gendre investi.
Le gendre investi.
Ouais.
Ah, le gendre investi. Il a un côté sympathique parce qu'il a des théories, il les applique. Il va vous donner des conseils. Par exemple, au moment du biberon, il va vous dire faut tant de protéines. Il sait mettre une couche, mais il a une théorie comment mettre la couche. C'est presque lui qui va vous donner des leçons.
Et le gendre parfait?
C'est le mien. J'en ai un. Attends.
Vraiment? Vraiment?
Parfois il m'énerve quand même un peu.
Pourquoi? C'est quand même...
Parce qu'il est parfait. Et que j'ai rien à lui dire.
Et d'ailleurs, ces grand-mères qui ont changé, vous avez envie de leur dire à travers ce livre, c'est un peu ma conclusion, soyez libres, vivez aussi vos émotions, dites à vos enfants quand vous n'êtes pas d'accord.
Oui, modérément ça.
D'accord.
Dire modérément parce que le conflit en famille, c'est difficile à gérer et parfois même ça ne vaut pas le coup.
Ouais.
C'est-à-dire, on n'est pas là pour leur faire la morale, on n'est pas redresseur de tort, mais en tout cas, vous avez une vie de grand-mère. Aujourd'hui, si vous allez au yoga, vous partez en randonnée dans le Sahara, quoi que vous fassiez, vous déjeunez avec vos copines et tout, vous avez le droit, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez le droit de dire non, aujourd'hui je ne garderai pas tes enfants. Voilà.
Quand on a trois petits-enfants, quatre petits-enfants, c'est pas grave d'avoir un chouchou, un préféré ?
C'est grave de le dire,
ouais.
C'est grave de le montrer,
ouais.
Mais je pense que si là aussi on est honnête, ça veut pas dire j'aime mieux machin que toi, ça veut dire que j'ai un peu plus d'affinité avec toi, et surtout aujourd'hui où beaucoup de familles sont éclatées et on peut être à 300 km les uns des autres et ne voir les petits-enfants.
Vous parlez beaucoup de FaceTime. Vous parlez beaucoup de
oui,
FaceTime.
C'est très important parce que c'est le nouveau lien.
Ouais.
Il faut savoir se servir de tout ça. Voilà. Et un chouchou, ça existe, c'est normal. Je dirais c'est normal, mais c'est pas une raison pour le dire.
C'est quoi être une bonne et heureuse grand-mère ? Vous êtes une bonne et heureuse grand-mère ?
Écoutez, d'après ma fille, un jour elle m'a dit un truc, que j'ai pas été une mère formidable. Il paraît que je travaillais trop, donc de toute façon, vous savez qu'avec nos propres enfants, souvent on est remis en question. Et donc j'ai pas été une mère qui avait une note 20 sur 20, mais il paraît que je suis pas une mauvaise grand-mère. Il paraît.
Et est-ce que vous avez un conseil à donner à ces grand-mères qui nous écoutent, à toutes ces auditrices formidables, exceptionnelles, parce que les auditrices de Focus Dimanche, elles sont toutes soit des mères, soit des grand-mères,
oui,
exceptionnelles.
Bien sûr.
Ça c'est écrit, c'est scientifique, oui. C'est le CNRS qui l'a dit. Mais en tout cas, plus sérieusement, vous avez un conseil à retenir ?
De continuer à être curieuse, bien vivante, de bonne humeur, et elles sont là pour des choses positives.
Ouais.
Voilà, arrêtez de faire la tronche, ne déballez pas forcément vos trucs comme ça le jour de Noël, à table, en disant « oui, moi, je suis pas contente parce que… » Non,
ouais.
Fermez-la.
Vous dites aussi à ces mamies « pensez à vous ». Et c'est ce que j'aimerais dire aussi à ma maman.
Oui.
Voilà, à ma maman et à ma belle-mère, Nona, qui sont des mamies exceptionnelles et qui pensent pas souvent assez à elles. Il faut se faire plaisir.
Fondamental. Vous avez parfaitement raison.
Voilà.
C'est le plus beau cadeau que les filles ou les gens peuvent faire à la grand-mère, c'est de lui dire pense à toi.
Bon,
merci. Je suis contente que ce soit vous qui le disiez.
J'espère ne pas être le gendre petit mou, en tout cas. Merci à vous, Joël Goron. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Merci
sur
de m'avoir reçu.
J'ai pris un énorme plaisir.
Et bonjour
plaisir.
À toutes les auditrices qui m'ont souvent énormément servi, si je peux dire, parce que quand je faisais mes rubriques, elles me donnaient plein d'idées. Quand je les entendais, je me disais, elles ont ça à dire, elles n'osent pas le dire, moi je vais le dire.
Et vous êtes ici chez vous, sur RTL, Joël Goron.
Je le sais,
voilà,
merci
vous le
beaucoup.
Savez. Merci à vous, bon dimanche
merci.
À vous, Joël Goron. 47 soldats allemands exécutés en juin 44. Fabrice Grenard, historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a recueilli les mémoires du colonel qui a donné l'ordre de ces exécutions. C'est l'un des plus grands secrets de la résistance. Fabrice Grenard témoigne dans quelques secondes, c'est sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Des nouvelles révélations sur la résistance française. Le 12 juin 1944, une quarantaine de soldats allemands et une femme française de la Gestapo ont été exécutés dans un champ. À 98 ans, le résistant corrézien Edmond Réveil a fait ses aveux. L'historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Fabrice Grenard, est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Fabrice Grenard, ces révélations étaient connues, des aveux qu'Edmond Réveil a révélés au micro de notre journaliste. Bertrand Frachon, écoutez.
On n'avait pas de structure pour les garder. Et il fallait les nourrir. Et on a reçu l'ordre de les tuer, de les passer par les armes.
Et alors comment ça se passe, cette exécution ?
Chaque homme tue son homme. Et c'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou. Ils sont enterrés et on a mis de la chaux vive dessus. Et c'est tout. C'est resté un secret jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qui vous a conduit à rompre ce silence tant d'années après ?
Parce qu'il fallait que ça se sache.
J'ai dit il y a quelques secondes que ces révélations étaient connues. Oui, connues par un tout petit nombre de Corréziens, mais inconnues par les journalistes, inconnues par la plupart des spécialistes ou des historiens. Est-ce que vous aviez connaissance de ces informations, Fabrice Grenard ?
Oui, tout à fait. J'ai rédigé un ouvrage consacré aux événements de Tulle, le massacre de Tulle, hein, le 9 juin 1944, dans lequel j'évoque cette exécution de soldats allemands prisonniers par le maquis, donc le 12 juin. Donc pour moi, c'est une confirmation. J'étais au courant des faits. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que on sait où a eu lieu à peu près cette exécution, donc à Meymac, dans le nord de la Corrèze, près du plateau de Mille Vaches, et on sait aussi combien il y avait de prisonniers allemands.
Pourquoi ce besoin de la part d'Edmond Réveil de raconter cela, de révéler ce secret 79 ans après les faits, alors qu'il a aujourd'hui 98 ans, selon vous ?
On voit bien que c'est un homme qui veut un petit peu soulager sa conscience. Effectivement, il a 98 ans. Il avait 18 ans au moment des faits. C'est certainement l'une des pages les plus dures, les plus douloureuses de sa vie, à laquelle il a participé. Et donc, au soir de sa vie, il est assez logique qu'il veuille un petit peu en parler et se soulager.
Fabrice Grenard, vous êtes l'un des plus grands experts de cette période-là, l'un des plus grands historiens de la Résistance. Vous aviez publié aux éditions Talendier en 2014, Tulle, enquête sur un massacre, 9 juin 1944. Aujourd'hui, vous pouvez nous raconter ce qui s'est précisément passé le 12 juin 1944 avec cette exécution d'une quarantaine de soldats allemands?
Oui, il faut revenir donc un petit peu en arrière.
Oui, c'est parce que cette semaine-là, en Corrèze, elle est marquée par deux tragédies. Il faut le dire, là on en apprend une troisième parce que ça reste une tragédie, l'exécution d'une quarantaine de soldats. Mais cette semaine, elle est marquante de l'histoire du Limousin et de la Corrèze.
Tout à fait, ce sont trois tragédies qui s'enchaînent en réalité. Hein, et cette exécution de soldats allemands est la conséquence, quelque part, des deux autres. À l'annonce du débarquement à Lille, le 6 juin 1944, les maquis de Corrèze, notamment les maquis FTP, francs-tireurs et partisans, sont sur le pied de guerre et ils vont attaquer la ville de Tulle, qui est une ville assez importante, une préfecture. Donc ils lancent une attaque le 7 juin 1944. Or, à Tulle, il y a une garnison allemande d'à peu près 300 soldats. Après deux jours de combat, les maquisards, donc les FTP, tiennent la ville. Donc il y a pas mal de pertes dans les rangs allemands et c'est à ce moment-là que les maquisards vont faire des prisonniers, donc une cinquantaine de soldats allemands prisonniers. Mais au soir du 8 juin 1944, une division SS allemande, la tristement célèbre Das Reich, arrive à Tulle, reprend le contrôle de la ville, oblige les résistants, les maquisards, à se replier, emmenant avec eux leurs prisonniers. Et les SS de la division Das Reich vont se livrer à Tulle à de terribles représailles. Ils vont, le 9 juin au matin, rafler l'ensemble des hommes de la ville, toute la population masculine de la ville, à peu près 3000 personnes. Ils vont les parquer dans la manufacture d'armes de la ville et ils vont en tirer au hasard 99 pour les pendre au balcon, au réverbère de Tulle, devant les familles.
On va tuer 99 Français. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors clairement, l'ensemble de la population masculine âgée de 18 à 50 ans est arrêtée.
Oui.
On les parque dans la cour de la manufacture. Là, les Allemands sélectionnent. Ils en tirent 99 au hasard et ils les pendent. Voilà, ça c'est, ils les pendent devant les familles, devant la population, pour terroriser en fait la population. Ouais. Et il y a aussi 145 tullistes qui seront déportés, dont 101 ne reviendront pas. Donc le bilan, il est en fait de 100 victimes. Le plus grand massacre a lieu le lendemain, le 10 juin 1944. Cette même division Das Reich poursuit sa route vers Limoges. Et donc à l'ouest de Limoges, il y a ce petit village de Radour-sur-Glane, où là, la division Das Reich va se livrer au plus grand massacre de toute la période en France. 643 victimes, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et il faut le dire, il n'y avait pas de résistance.
Ouais.
Il n'y avait pas de maquis à Oradour-sur-Glane, donc c'est de la barbarie à l'état pur.
La barbarie à l'état pur qui va entraîner une réaction. Le lendemain, donc le 12 juin, il se trouve que depuis quelques jours, ces maquisards, ces FTP, ces maquisards de Mémac avaient une cinquantaine de soldats de la Wehrmacht, c'est ça, des soldats allemands. Et donc ils ne savent pas quoi faire de ces soldats allemands.
Tout à fait, c'est tout le problème. Hein. Ce sont ces soldats qui ont été faits prisonniers lors des combats de Tulle, les 7 et 8 juin. Lorsque les maquisards quittent Tulle à l'arrivée de la Das Reich, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'opposer à cette division blasée des Allemandes, ils emmènent avec eux, effectivement, une cinquantaine de soldats allemands qui, du coup, sont prisonniers. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contexte est tout à fait particulier, puisque il était peut-être possible de tenir prisonniers ces soldats allemands dans Tulle. Ouais. Il y avait des bâtiments, on aurait pu les mettre dans une école, dans un bâtiment administratif, et puis les tenir sous bonne garde. Mais à partir du moment où les résistants reprennent le maquis, ils retournent dans les bois, dans leurs cachettes. Que faire de ces prisonniers ?
Sachant que Edmond Réveil l'a très bien dit au micro d'RTL, pour emmener un soldat de la Wehrmacht faire ses besoins, ils avaient besoin de deux maquisards. Oui. Donc il y avait une gestion très compliquée de ces otages ou de ces soldats ou ces prisonniers de guerre.
Oui, en fait, c'était même impossible parce qu'il fallait les nourrir. Il n'y avait même pas assez de ravitaillement pour nourrir les maquisards. Il fallait pouvoir les interner dans un lieu hors en pleine forêt, c'est impossible. Donc il n'y avait que deux solutions, je dirais. C'était soit de les relâcher, mais c'était totalement impossible parce que les soldats allemands avaient tout vu du maquis, ceux qui étaient prisonniers. Donc si on les avait relâchés, ils auraient tout de suite révélé l'emplacement des caches, etc. ou sinon c'était de les exécuter. Avec nos yeux d'aujourd'hui, ça peut choquer. En plus, dans l'actualité récente, avec la guerre en Ukraine, voilà, on voit bien que c'est une question qui revient un petit peu dans l'actualité. Le gouvernement ukrainien a souvent accusé les Russes, notamment, de ne pas respecter le statut de prisonnier de guerre. Mais dans le contexte de 1944, il faut bien comprendre que voilà, on a un contexte tout à fait spécifique, un contexte très lourd, que les maquisards n'avaient pas les moyens de garder ces prisonniers et que, de toute façon, les Allemands, de leur côté, eux-mêmes, ne respectaient pas le statut de prisonnier de guerre.
Est-ce qu'il y a des secrets qu'on ne connaît pas encore sur la résistance? Est-ce que vous travaillez encore sur des sujets? Vous, Fabrice Grener, en tant qu'historien, est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore où on a besoin d'informations?
Oui, il y a toujours des choses à éclaircir.
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y a aussi un certain nombre de rumeurs qui entourent des sommes d'argent, par exemple, qui auraient été détournées par la résistance. La célèbre, toujours en Corrèze, la célèbre affaire du train de Neuvik, où un milliard, un train qui transportait des fonds de la Banque de France, attaqué par les résistants, et puis l'argent disparaît. Et alors là, les rumeurs les plus folles circulent sur ce que serait devenu cet argent. Donc, il y a toujours des rumeurs.
L'une des rumeurs? Comme ça?
Ah bah, l'une des rumeurs, c'est que certaines personnes s'en seraient mis plein les poches. Ouais. Voilà. Sauf que quand on regarde les trajectoires des personnes soupçonnées après la guerre, en réalité, on voit bien qu'elles ne vivent pas dans des palaces et qu'elles ont un train de vie tout à fait modeste. Donc cet argent a tout simplement, je pense, profité à la résistance pour acheter des armes, pour payer des salaires, etc. Voilà. Mais il faut arriver à le confirmer par des preuves, par des archives. Or, aujourd'hui, c'est vrai que depuis une décision du président François Hollande en 2015, toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale sont ouvertes, y compris les plus sensibles, les archives policières, les archives judiciaires. Et on a donc là un certain nombre d'archives nouvelles qui nous permettent de travailler ces sujets.
Je suis ravi de vous avoir reçu aujourd'hui dans Focus Dimanche sur RTL parce qu'on a entendu ces derniers jours des propos, des rumeurs un peu étranges. Ce n'était pas bien, pourquoi les résistants se sont comportés comme ça. Mais il faut avoir le contexte aussi. Il faut expliquer de A à Z. 9 juin, massacre de Tulle, 99 personnes tuées, 99 personnes pendues à Tulle par des soldats allemands. Le massacre de Radour-sur-Glane, le 10 juin, 643 personnes brûlées, mitraillées, assassinées par les Allemands, des femmes, des enfants. Et le 12 juin, une réponse française qui n'est peut-être pas celle qui est attendue en 2023 par certains, mais c'était ça aussi, la guerre. Et je voudrais juste conseiller un livre pour aller un petit peu plus loin, En bande organisée, de Sébastien Le Foll, voilà, autour de la jeunesse de François Mitterrand, d'André Bettencourt, de Pierre de Bénouville, de tous ces hommes-là qui ont participé à des séquences de la résistance et on nous emmène dans cette Seconde Guerre mondiale de manière très intéressante. Et je voudrais ajouter aussi, Fabrice Grener, que vous pouvez aller écouter le podcast Focus d'Agnès Bonfillon consacré à ce massacre de Tulle en 1944. Vous pourrez y entendre le témoignage de cet ancien résistant Edmond Réveil qui brise l'omerta 79 ans après. Rendez-vous sur l'application RTL et notre site rtl.fr. Un grand merci Fabrice Grener de nous avoir donné cette perspective pour comprendre exactement ce qui s'est passé il y a 79 ans en Corrèze. Merci à vous, passez un bon dimanche sur RTL.
Merci beaucoup.
Des joueurs de football qui refusent de porter un maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie et des entraîneurs qui les défendent, un comportement qui ne passe pas et qui choque. On en parle avec mon invité dans Focus Dimanche, c'est dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche. RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Est-ce que le football est homophobe? Cette question choquante, on l'a entendu cette semaine. Une question qui intervient à la suite du week-end de lutte contre l'homophobie. Certains joueurs en Ligue 1 ont refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. Certains joueurs ont même assumé leur geste pour la première fois. Yoann Lemaire est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Yoann.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Foot Ensemble, association qui lutte contre les discriminations dans le monde du football. Refuser de porter ce maillot, est-ce que c'est cautionner l'homophobie?
C'est une bonne question. Très sincèrement, je ne sais pas vous répondre. Parce que je suis allé dans les clubs avec la Ligue de foot professionnelle, un certain nombre de clubs professionnels, de Ligue 1, de Ligue 2, et on a été discuté avec les joueurs pros. Et c'est vrai qu'on avait sous-estimé optimiser le problème, parce que beaucoup de joueurs, ben, ça posait problème de porter le maillot pour plein de raisons. Alors tout dépend de ces raisons, une fois de plus. Quand certains me disent, moi je préfère choisir ma cause, je veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit, bon, si derrière il m'assure qu'il n'est pas homophobe, ce n'est pas de l'homophobie. Maintenant, c'est dommage, parce que ça montre un très mauvais exemple, et on avait besoin d'eux pour justement avoir un peu de solidarité auprès des jeunes.
Alors c'est très important de le signaler. L'homophobie, ce n'est pas une conviction, c'est pas une opinion, c'est un délit en France. Quand on a dit ça, quand on a rappelé cela, on va juste donner quelques chiffres. Sur les 793 joueurs qui participaient à cette opération, la semaine dernière, seuls 7 joueurs ont refusé de porter ce maillot. Quand on voit ces chiffres-là, il faut nuancer aussi ce qui s'est passé la semaine dernière.
Ah bah bien sûr, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de dire déjà merci aux clubs, tous les clubs qui ont joué le jeu, merci aux joueurs, merci à la Ligue de football professionnelle, parce qu'on a vu aussi beaucoup d'associations, beaucoup de gens dire que c'est une honte, le football, c'était que des homophobes. Mais non, il y a quand même tout le monde, presque tout le monde, hein, puisqu'il y a plus de 700 joueurs qui ont porté le maillot, des entraîneurs. Donc là, ils ont montré l'exemple, ils ont été solidaires, c'est une bonne chose. Ils ont aussi montré de la visibilité pour tous les collégiens, les gamins dans les centres de formation, dans le club de foot amateur. Donc c'est ça qui est important. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut quand même se poser des questions, parce qu'il y a des soucis dans les clubs aussi.
Ouais, il faut faire attention. C'est ça. Il y a quel souci, Yoann Lemaire ? Vous qui participez à des stages avec les clubs, là, dans quelques heures, vous allez partir dans les Vosges, vous allez voir un club amateur, vous travaillez aussi avec les clubs professionnels. On sent qu'il y a quand même une petite base dans le football qui est assez inquiétante.
Oui, il y en a de plus en plus. On revient un petit peu en arrière sur les traditions, les cultures, les religions. Je vois beaucoup de joueurs interpréter les religions à leur façon. Ça pose souci parce qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Là, en 2023, on est obligé d'y aller avec des théologiens, prendre des cours de théologie pour essayer de déconstruire un petit peu ce qu'ils interprètent.
C'est-à-dire que quand vous allez voir des joueurs dans les clubs, vous venez avec des théologiens. En clair, vous venez avec des hommes d'église, des imams, des rabbins.
Pour le moment, on prend des cours, mais prochainement, on ira avec eux, oui. Il y a déjà des clubs dans les centres de formation qui font venir des imams, des gens de la religion, pour essayer de, aussi bien sur le ramadan ou sur d'autres choses, discuter avec eux, parce que parfois, c'est du n'importe quoi. Avant, c'était une minorité, maintenant, c'est devenu une majorité. Il y a des jeunes qui sont plus ou moins influents, ou même des joueurs pros, qui imposent un petit peu leurs règles. Et il y a un conservatisme, oui, des religions, des cultures et des traditions qui posent problème. Après, il y a le problème du virilisme, on le sait bien.
Ouais.
Du côté, on est des bonhommes, on n'est pas des pédés, etc. La douche, le vestiaire, on n'est pas là pour parler de ça aussi, c'est de l'ordre du privé. Donc les joueurs, ils sont assez drôles parce que certains vous parlent de leurs femmes, de leurs enfants. Et après, quand on parle d'homosexualité, ils disent oui, mais ça, c'est de l'ordre du privé, on n'a pas à savoir si notre coéquipier est gay ou pas.
Ouais.
Donc c'est pas cohérent. Ça démontre que ça dérange parce que c'est un nouveau sujet pour eux, ils n'en parlent jamais.
Et quand vous parlez de communication, il y en a qui se sont ratés sur la communication notamment. L'entraîneur de Brest, Éric Roy, il était sceptique sur cette action pour une raison sportive. Écoutez-le.
Il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça me pose pas problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc à partir de là, fais le pas dans les 3 derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs, quoi. Bon, c'est très bien que la Ligue elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Et que c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans les derniers matchs.
En clair, fallait pas mettre cette journée à la 35e journée parce qu'on joue le maintien. C'est pour ça, il reste que 3 journées. Là, même si, attention, il faut revenir sur Éric Roy, il a publié un message sur Instagram, il a porté le brassard LGBT tout le match, il a expliqué qu'il l'avait porté avec fierté. C'est quand même un petit mauvais exemple, c'est quand même un raté de communication de la part d'un coach, et surtout d'un coach qui va discuter avec ses joueurs ensuite, Yoann Lemaire.
Oui, et puis surtout que c'est quand même des professionnels, ils devraient être formés à tous ces sujets aussi. C'est pas nouveau quand même, la lutte contre l'homophobie, on a l'impression qu'ils découvrent ça le jour du match. Bon, bah après tout, voilà, tout est bon pour essayer d'expliquer que c'était pas le bon moment. Hein.
Ouais.
Ils trouvent toujours des excuses. Moi je trouve que c'est ridicule, et honnêtement ce que j'en pense, moi, autant que les joueurs, je peux essayer de comprendre certaines prises de position, mais là, un entraîneur d'un certain âge qui est formé, qui connaît le milieu du professionnel, c'est la honte du football.
Vous le disiez tout à l'heure, le milieu viriliste. Ces enfants, ces jeunes joueurs, il faut aussi les comprendre, ils sont ensemble dans le centre de formation à partir de 12-13 ans, dans des milieux virilistes. On leur retire de leur famille, on les retire de leur environnement personnel et ils grandissent tous ensemble. Et on leur explique pas les choses. Est-ce que la Ligue professionnelle, la Ligue de football professionnelle doit faire encore plus avec vous pour aller voir ces gamins à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans et leur expliquer que c'est pas bien, que c'est grave, qu'il faut soutenir des positions comme ça, et il faut essayer d'être ouvert. Est-ce que c'est pas par la pédagogie, et la pédagogie plus jeune, que ça va passer ?
Bien sûr, la pédagogie, la sensibilisation dès les centres de préformation, dès les pôles espoirs, les gamins de 14 ans, 15 ans. Il y a quand même beaucoup d'actions qui se font avec des associations, mais une fois de plus, dans la presse, je vois beaucoup d'associations parler, je vois beaucoup de gens critiquer, mais quand les clubs ouvrent les portes, il n'y a personne qui va, parce qu'il faut se lever tôt le matin, il faut faire des kilomètres, il faut aller voir des jeunes, où parfois c'est pas facile de parler avec eux. Il y a un manque aussi de ce côté-là, mais oui, et puis il faut essayer de bouger les clubs pour qu'ils en fassent encore plus, mais on peut aussi leur dire merci parce qu'ils en font déjà pas mal.
Merci beaucoup Yoann Lemaire. On rappelle quand même que 7 joueurs seulement sur 793 ont refusé de porter ce maillot. Je voudrais rappeler aussi que mercredi dernier, c'était le 17 mai, c'était mon anniversaire, ça c'est vrai, mais c'était surtout la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et il y a 10 ans, on célébrait la loi du mariage pour tous, une loi qui a permis à des centaines de milliers de personnes de vivre librement leur amour en France. Mais il faut aussi se souvenir des propos des députés tenus au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle, des propos scandaleux où on expliquait que dans les prochaines semaines, prochains mois, si on acceptait le mariage pour tous, il y aurait de la zoophilie, des mariages à 4, à 5, à 6. Voilà, donc ces personnes-là qui ont fait des études, qui sont des gens importants, etc., sont capables de tenir des propos comme ça. Donc il faut aussi un petit peu accepter que des joueurs de football qui n'ont rien connu, hormis le centre de formation, puissent parfois faire des erreurs, et ça passe par la pédagogie, et ça passe par vous aussi. Donc bravo à vous, Yoann Lemaire. Merci. Et merci d'avoir été mon invité aujourd'hui sur RTL. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.
Merci.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité tous les dimanches à 13h sur RTL. Et tous les jours sur l'application RTL, ne ratez pas le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous retrouvez les meilleurs moments du Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon. RTL, il est 14h.